Salut à Terre Carrée, c'est Marie d'ALD41. Je vous appelle depuis Glasgow, on est à la COP26 et on m'a suivi avec une grande attention le discours d'Emmanuel Macron à la cérémonie d'ouverture. C'est un discours qui était vraiment parfait, où il a parlé de changement du modèle économique, de transparence, de nécessité de solidarité, d'accompagnement des plus précaires. Le problème, c'est que derrière ce joli discours, la France a été condamnée 2 fois en justice pour une action climatique. Donc avec des amis activistes, on s'est dit qu'on n'allait pas le laisser dévider ces jolis discours et on est venu à Glasgow pour apporter une petite surprise. C'est des portraits qui ont été réquisitionnés un peu partout en France par des activistes climat qui sont entrés dans leur mairie et qui ont enlever le portrait d'Emmanuel Macron pour laisser sur les murs un espace vide qui est pour nous le parfait symbole du vide de sa politique climatique et sociale. Et donc ces portraits, on les a ramenés à la COP26 pour rappeler ce qui se passe derrière ces jolis discours. À bientôt.
Bonjour, je suis Martine et je voulais vous partager ma tristesse et ma révolte pour ce qui se passe en forêt bretonne, forêt qui jouxte mon village, où des parcelles entières de chênes, de hêtres sont mis par terre. Et puis la faune, pareil, il y avait des cérébiches qui ont été exterminées pour cause, entre guillemets, de tuberculose. Les sangliers, bon, s'en tirent pas trop mal parce que on a chance de faire des portées nombreuses et éventuellement plusieurs par an, ce qui n'est pas le cas du chevreuil. J'ai connu la forêt avec des hardes de biches magnifiques, des cerfs qui bramaient. Et maintenant, ça me désespère quand je vois l'état dans lequel elle est. Bonne journée à tous et merci pour votre émission.
Salut, c'est Cédric de Nancy. J'entends à la fois parler des missions de la COP à Glasgow et à la fois d'un grand prix de moto dont tout le monde est très content parce que la France a gagné. Il y a du boulot à faire parce que si on fait le lien entre les deux, on n'est pas arrivé. Bon courage à vous tous les Terriens.
Bonjour, c'est Pascal. Je téléphone de Cerquigny dans l'Eure. J'ai écouté l'émission consacrée à la pollution numérique. Il y a quelques années, Radio France a décidé de supprimer les grandes ondes. Je reçois très mal la FM sur une radio classique et pour continuer à écouter ma radio préférée, je suis obligée d'utiliser mon ordinateur. Pollution numérique évidente et surutilisation de l'ordinateur qui s'usera plus vite et sera remplacé, créant des déchets plus importants qu'une simple radio dont la vie est plus longue. Cherchez l'erreur. À bientôt.
Allô, oui, bonjour la Terre au carré. On a envie de réagir là, parce que ce monsieur qui défendait la chasse, au nom de la tradition, du plaisir des loisirs et de la liberté, est-ce que ce monsieur a vu que depuis que l'humain existe, il y a quelque chose qui s'appelle l'évolution, et qu'avec son type de raisonnement, eh ben on en serait encore au jeu des arènes romaines, etc. Donc, la notion de plaisir dans nos loisirs, c'est vaste. On peut juste noter que on est apparemment de plus en plus nombreux sur cette terre à découvrir juste le plaisir émerveillé de voir vivre les animaux, tous, autant qu'ils sont, autant que les arbres d'ailleurs. Et donc peut-être que dans 100 ans, on aura le même regard de recul scandalisé sur la chasse que celui qu'on a aujourd'hui pour la vivisection, les méthodes d'élevage industriel, le massacre des baleines, le massacre des îles Féroé, le massacre des éléphants, etc., etc. Et tout ça pour le plaisir humain traditionnel. Est-ce qu'on veut rester à l'époque de Cro-Magnon ou est-ce qu'on a envie d'évoluer vers le plaisir de vivre dans ce qu'on est de plus noble? Bon, allez, on arrête là. Un gros merci à Camille Crounier pour toutes ses chroniques hyper intelligentes sur tous les sujets sensibles qu'elle arrive à mettre en lumière et meilleur vent à la Terre au carré. Au revoir.
Oui, c'est Elisabeth, j'appelle d'Autun. C'est pour vous informer que nous organisons une course pour la planète le 28 novembre prochain où chaque participant gagnera un arbre à planter chez lui ou dans un espace public. Et on va essayer de mettre des affiches et tout, mais si c'était possible de pouvoir en parler, de pouvoir diffuser là-dessus. Merci beaucoup, bonne journée.
Le répondeur de la Terre au carré, 01 56 40 45 45.
C'est un métier qui fait souvent rêver toutes les générations de 7 à 77 ans et qui trouve régulièrement sa place dans l'imaginaire des films ou des bandes dessinées. Ce métier, c'est celui d'archéologue. Mais quelle est la réalité des scientifiques qui pratiquent cette profession? Sont-ils vraiment des chasseurs de trésors? Et comment justement se pratique la recherche au quotidien lorsqu'on travaille par exemple sur la métallurgie des alliages cuivreux des sociétés européennes comme vous, Anne Leurf? Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes notre invité à l'occasion de la publication de votre dictionnaire amoureux de l'archéologie. Ça paraît chez Plon et c'est donc l'occasion de plonger au cœur de votre métier qui visiblement intéresse beaucoup nos auditeurs parce qu'on a déjà pas mal de questions pour vous. Vous allez y répondre. Il suffit de nous joindre sur franceinter.fr, les réseaux sociaux et puis également les notes vocales avec l'application France Inter. On se retrouve dans un instant. Bonjour Camille Cronier.
Bonjour Mathieu, bonjour tout le monde.
14h30, Camille passe au vert.
Et je suis allée visiter Hectare, c'est la ferme, le campus agricole géant fondé notamment par Xavier Niel.
Voilà pour le sommaire de cette émission réalisée par Valérie Ayestaraï, préparée par Lucie Sarfati, Léonard Ocane pour les réseaux sociaux et aujourd'hui Henri Bérec à la technique.
Mathieu Vidard, la Terre au carré. Sur France Inter.
L'Arche perdue. Aucun trésor n'existe auprès d'elle. Oui, elle est tout pour nous, tout ce qui nous a un jour décidé à devenir des archéologues.
Bienvenue à bord, Dr. Jones.
Merci.
Anne Leurf, les aventuriers de l'Arche perdue pour ouvrir cette terre au carré sur l'archéologie. Vous qui êtes archéologue et historienne, professeure à Cergy, Paris Université, et qui présidez le Conseil National de la Recherche Archéologique, et donc ce dictionnaire amoureux dans lequel, évidemment, on trouve une entrée sur Indiana Jones, qui est, je vous cite, comme tous les mythes liés à l'archéologie, un moyen à utiliser et un sujet à combattre.
Oui, Indiana Jones, c'est incontournable, on est évidemment obligé de le citer, puisqu'il existe, il est là. Alors oui, c'est un mythe, tout le monde connaît la musique, tout le monde connaît le personnage. Et puis, donc il existe, il porte le nom de l'archéologie, il le fait connaître. Et en même temps, il est à combattre avec les maigres moyens des archéologues face à Indiana Jones, parce qu'il est quand même très très fort, donc c'est difficile. Mais oui, parce qu'effectivement, l'archéologie dans sa pratique et dans sa réalité n'est pas tout à fait celle d'Indiana Jones.
Ouais. Alors, il y a plein de héros d'ailleurs hein, qu'on croise dans votre dictionnaire amoureux. Il y a Rahan, moi j'étais très content de le retrouver, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Et puis il y a quand même la couverture. Dites-nous pourquoi vous avez choisi cette image de la salle des taureaux de la grotte de Lascaux pour illustrer votre dictionnaire amoureux de l'archéologie.
Alors la salle des taureaux, d'abord c'est parce que c'est une très belle image effectivement de Lascaux, et puis je trouvais que c'était intéressant que Lascaux soit en couverture, parce que je trouvais que ça incarnait assez bien finalement les archéologues face à l'archéologie au XXe siècle.
C'est-à-dire
une découverte, alors en plus portée par des adolescents, donc il y a le côté rêve porté par des enfants, il y a une histoire de chien qui va avec, même une histoire de lapin, enfin... On est dans le récit un petit peu mythique, le hasard d'une découverte, à un moment délicat puisqu'on est en 1940 et qu'on est en pleine guerre, donc il y a une dramaturgie, et puis cette grotte a été ouverte, et elle a été ouverte...
Trop ouverte,
voilà. Ouais. C'est-à-dire qu'on l'a étudiée, elle a fasciné, et elle a été trop ouverte, et du coup, alors qu'elle avait été préservée, intacte pendant des milliers d'années, les hommes du XXe siècle l'ont mise en péril. Et donc, il y a toute cette réflexion autour de la découverte, l'étude, l'accessibilité au public, la nécessité de conserver et finalement la position du contemporain d'aujourd'hui face à ce passé, face à la nécessité d'agir non seulement pour étudier, mais aussi pour ne pas accélérer la destruction.
Et c'est aussi toute l'évolution de votre discipline entre 1940 et aujourd'hui, hein, avec vraiment quasiment deux extrêmes,
oui.
C'est-à-dire sur les pratiques en tout cas.
Alors oui, c'est-à-dire que c'est vrai qu'en 1940, on n'avait pas les moyens d'études que l'on a aujourd'hui. Donc c'est vrai qu'il y a d'énormes changements, et en particulier tout le développement des méthodes de laboratoire qui n'existaient pas à ce moment-là et qui permettent des études particulières. Alors pour Lascaux, pour rester sur cette image, c'est vrai que par exemple les études des pigments se font avec des méthodes de laboratoire qu'il n'y avait évidemment pas en 1940.
Ouais. Alors, on disait tout à l'heure, c'est vraiment une profession qui fait rêver beaucoup de générations, mais les enfants en particulier. Je crois qu'on a reçu d'ailleurs un message sur l'appli France Inter et j'aimerais vous le faire entendre tout de suite.
Bonjour, je m'appelle Romane et je voudrais savoir, est-ce qu'avec le temps, vous trouvez encore beaucoup de choses dans la Terre ou vous avez déjà tout déterré?
Elle est bien cette question.
Elle est bien cette Romane. Alors, en fait, On a déterré beaucoup de choses, pour répondre à Romane, et il reste encore beaucoup de choses effectivement à déterrer, c'est-à-dire que les archéologues trouvent des choses, comme elle dit, au quotidien, des vestiges archéologiques, des vestiges archéologiques qui sont de grands trésors ou de petits trésors, enfin tous des trésors, mais plus ou moins clinquants, ou plus ou moins modestes. Donc les découvertes se font au quotidien. Cela étant, elle a raison sur une chose, Romane, c'est-à-dire que si on continue à trouver de manière accélérée certains vestiges, à terme, on peut se dire qu'effectivement, nous allons épuiser la ressource qui n'est pas renouvelable en archéologie. Donc elle a raison d'alerter peut-être et ce point de vigilance.
Sauf qu'il y a encore des grottes de Lascaux qu'on n'a probablement pas encore découvertes, ou des grottes d'Altamira en Espagne, qui sont des vrais trésors et qui ont été découverts vraiment complètement par hasard. Hein.
Tout à fait, oui, on va effectivement découvrir probablement des lieux exceptionnels dont on ignore tout aujourd'hui, et qui viendront bousculer la connaissance et les archéologues.
Mais on ne peut pas du tout faire une sorte de proportion en disant que potentiellement 80% des vestiges ont été découverts aujourd'hui sur la Terre, et en reste 20%, il n'y a aucune idée finalement
de quantification. Oui. C'est très difficile de quantifier.
De proportion plus que de quantification. Enfin, c'est lié, mais...
On a découvert beaucoup, mais enfin, il y a un côté dans l'archéologie, il y a un côté, ça dépend de quoi on parle. Si effectivement on est sur du chiffre ou du quantitatif, ou si finalement on est aussi avec une part d'inconnu sur la nature de ce que l'on peut découvrir. Et ça, on l'ignore complètement. Il parlait tout à l'heure, Indiana Jones, de l'Arche d'Alliance. On découvre parfois des vestiges qui sont des unicums parce qu'on n'en a pas découvert jusque-là. Donc, il n'y a pas simplement le nombre de sites que l'on peut trouver. Il peut y avoir aussi des découvertes qui sont des découvertes totalement différentes de ce que l'on pensait savoir. Où on peut remonter le temps aussi. Ouais. Donc,
dans toutes les questions, il y a Marc, par exemple, qui demande, on cherche beaucoup hein, dans votre métier, mais est-ce que vous n'êtes pas déçu des petites découvertes, justement? Il y a toujours ce mythe du trésor hein,
oui, il y a toujours
qui
ce
reste
mythe.
Accroché. Hein.
Oui, d'ailleurs, il y a une entrée trésor dans le dictionnaire, parce qu'effectivement, là aussi, c'était un incontournable. Je ne crois pas. Alors oui, il y a des jours où on voudrait découvrir plus que parfois vraiment des traces ténues, parce que c'est vrai que ça fait toujours plaisir de faire une...
Et qu'est-ce qui fait qu'une découverte est exceptionnelle, par exemple ?
Elle est exceptionnelle parce qu'elle elle raconte beaucoup sur le passé. Donc elle est exceptionnelle parce qu'elle dit beaucoup, et puis elle peut être exceptionnelle aussi parce qu'elle est magnifique et elle est très belle. On parlait de Lascaux. C'est vrai que voilà, on n'est pas indifférent, même si le chercheur est censé être neutre, avoir une neutralité absolue, on n'est pas indifférent devant un très beau panneau. Donc il y a ce côté un petit peu qui sort du commun, qui sort de l'ordinaire. Mais l'archéologue, dans sa pratique et dans sa vie quotidienne, il est aussi très content de ce trésor qui ne ressemble pas à grand-chose, parce que ça nourrit la connaissance. Donc il y a ces deux dimensions-là. Et je ne crois pas qu'on soit déçu parce que le vestige que l'on met au jour est effectivement modeste.
La première entrée, c'est à Abou Simbel. Hein. Oui. Donc on a quand même un lieu exceptionnel là aussi.
Oui, hein, on a un lieu exceptionnel.
Pour débarquer dans votre aventure personnelle.
Oui, alors le lieu est exceptionnel, l'histoire est exceptionnelle aussi d'Abou Simbel. Et c'est un moment, j'ai choisi aussi ce site parce que c'est un moment clé dans une prise de conscience mondialisée du patrimoine archéologique. C'est-à-dire que on a fait à Abou Simbel, on a déplacé quand même Abou Simbel à un moment donné où de tournant d'une histoire géopolitique mondiale qui a fait que les pays se sont réunis pour se dire voilà, il y a un barrage, ça va être inondé, il faut déplacer. Et on a mis en place, et finalement ce sont les prémices de cette prise de conscience qui est aujourd'hui une émission de l'UNESCO. Des sites qui sont protégés à l'échelle de l'humanité.
Anne Noerf, vous êtes l'invitée de la Terre au Carré, dictionnaire amoureux de l'archéologie, c'est chez Plon, et plein de questions pour vous sur franceinter.fr.
Certains ont dit les fous ont vu danser dans les rangs et les remous, ont cru dur comme fer que mon cœur était mou, que je chevauchais le fou. Certains y ont vu j'en faisais des barricades dans la rue, et te voilà à l'orée de l'inconnu.
qui me regarde, qui te regarde pour la première fois.
Regarde, c'était Barba Gallo et Thierry Dupin pour la programmation de l'émission.
La Terre au carré sur France Inter.
Bravo les garçons, jolie pêche. Qu'est-ce que c'est que ces pierres? Encore une de ces idées bizarres.
Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Oh. Voilà. Tiens, tu te rends compte de tout ce qu'on pourrait faire avec ça?
Le biface, outil tranchant dont on va se servir pour différents usages. Le hachereau, qui deviendra l'outil par excellence. La lame à dos, l'ancêtre du couteau. Et Maestro eut le sentiment de passer à la postérité.
Voilà, spéciale dédicace pour vous, Anne Loerf, avec Il était une fois l'homme, l'épisode sur Néandertal. Ouais. Ça aussi, ça fait partie de vos petites madeleines quand même, non?
Oui, ça fait partie, hein, de mes petites madeleines, effectivement, d'avoir écouté Petite fille, Il était une fois l'homme, et ouais, effectivement, d'avoir eu Maestro comme premier maître historien.
Avant de passer aux questions des auditeurs et Camille, un mot justement sur la découverte de la grotte d'Altamira en Europe, dont vous rappelez qu'elle était la première grotte européenne justement découverte, et on le doit à une petite fille.
Oui, Maria.
Et l'histoire, elle est magnifique.
Oui, effectivement, elle va avec son papa dans la grotte. On est au milieu, fin des années 1870, et effectivement, elle lève la tête, et elle aperçoit justement un taureau au plafond, et elle dit taureau.
Que son père n'avait pas vu.
Que son père n'avait pas vu, effectivement. Ouais. Donc c'est là aussi, ça passe par les enfants.
Une question de Gwen sur Instagram qui nous demande justement si l'archéologie est un métier d'avenir.
Aussi, ça, effectivement, c'est un métier qui fait partie d'aujourd'hui et de demain, oui, bien sûr.
Pourquoi vous avez besoin de justifier le fait que ce ne soit pas une chasse au trésor, justement, ce métier?
Parce que ça l'est pas, tout d'abord, et puis parce que y a une confusion entre le trésor et la science. C'est-à-dire que c'est bien qu'il y ait une part de rêve, et c'est toujours important, mais si on limite Finalement, l'archéologie a une chasse au trésor au sens le plus strict et le plus pauvre du terme. Eh bien, finalement, on est là pour gratter et faire des trous et essayer de trouver des pièces ou des objets qui brillent. On n'est pas là pour chercher des vestiges qui sont effectivement brillants ou beaucoup plus modestes et beaucoup plus ténus et qui apportent de la connaissance historique et qui sont pas des trésors au sens où on l'entend souvent de manière ordinaire.
Est-ce que finalement la réalité ne vient pas faire prendre conscience de tout ça? C'est-à-dire que oui, il y a beaucoup d'enfants qui disent « moi plus tard je vais être archéologue ». À l'arrivée, il y en a très peu finalement qui vont l'être. Parce que justement, on se rend compte peut-être les études, les situations, l'avenir à quoi ça ressemblera. Donc finalement, pourquoi vouloir, enfin je dis pas ce que vous voulez faire, mais pourquoi vouloir entre guillemets casser le rêve des enfants alors que de toute façon la réalité va venir faire évanouir ce rêve de toute façon?
Alors j'espère que je ne casse pas le rêve des enfants. C'est pas ce que je disais, mais... J'espère que je casse pas le rêve des enfants. Parce que je pense que c'est important qu'il y ait cette part de rêve. Et quand je rencontre des enfants et qu'effectivement ils ont les yeux qui brillent quand ils ramassent un petit morceau de tesson dans leur jardin ou un petit caillou et que c'est leur trésor, je trouve ça extraordinaire. Et j'ai été une enfant comme ça.
Le fond de ma question, pardon, c'est en fait pourquoi vouloir démystifier à ce point l'archéologie, après tout?
Parce qu'en fait, je veux pas le démystifier, mais en fait, je voudrais arriver à faire comprendre ce que c'est aussi. Ce qui m'ennuie, entre guillemets, c'est que souvent on ne garde que la part de rêve, on ne garde que ce volet un petit peu de chasse au trésor, et que donc tout un pan de l'archéologie telle qu'elle est réellement aussi, c'est-à-dire une science, c'est-à-dire une enquête du passé, avec des protocoles, avec une législation, avec un travail qui effectivement certains jours n'est pas toujours aussi simple et aussi rigolo que de chasser un trésor, reste méconnu. Et donc je trouve que c'est important... non pas de casser la part du rêve et du mythe, mais de mieux faire connaître l'autre volet de cette pratique.
Et une entrée pillage dans votre dictionnaire, c'est un peu la bête noire des archéologues, c'est ce que vous rappelez, et du patrimoine d'ailleurs en général. C'est un problème qu'on arrive vraiment à évaluer aujourd'hui à l'échelle de la planète?
Non, on sait qu'il est grave, on sait qu'il est lourd, le préjudice du pillage, et d'ailleurs le pillage est lui-même pluriel. C'est-à-dire qu'il y a le petit pilleur, le petit détectoriste qui va le dimanche après-midi et qui...
Le détectoriste,
hein, avec son détecteur de métaux, qui va effectivement en promenade et qui dit, voilà, moi je vais me promener, c'est un petit peu comme si je ramassais les champignons, sauf que les vestiges archéologiques ne repoussent pas, contrairement aux champignons, donc ça fait quand même une grosse différence. Et puis, il y a des organisations quasiment à l'échelle internationale, avec une utilisation finalement, un pillage qui est de nature économique, qui est de nature politique, qui est de nature parfois même idéologique, qui peut servir d'arme de guerre. On a vu devant les caméras la destruction des Bouddhas de Bamiyan. On est sur un pillage complètement idéologique et d'une violence inouïe. L'assassinat du directeur du site de Palmyre, on est dans cette réalité-là. Où le pillage recouvre une réalité de guerre idéologique.
On va écouter justement un reportage de TF1 en avril dernier sur ces détectoristes avec l'archéologue Frédéric Maxuc de la DRAC Provence-Alpes-Côte d'Azur.
Avec un détecteur de métaux et une pioche, les détectoristes partent à la chasse au trésor. On les voit souvent dans les champs, sur les plages. Le principe, quand le détecteur sonne, il faut creuser, parfois pour rien.
Et toujours avoir cette... petit espoir de sortir un petit truc qui nous fait plaisir, quoi.
À 400 km de là, nous avons rendez-vous avec cet archéologue pour visiter un site pillé. Notre chemin nous mène aux ruines d'un château médiéval.
Voilà, on arrive donc sur la bordure des remparts.
Ici, un trou de plusieurs mètres carrés, preuve que le butin était important. Chaque objet volé est un indice de perdu sur le lieu.
Ce sont des éléments capitaux dans la compréhension et dans le fonctionnement d'un site archéologique. C'est une véritable catastrophe scientifique. Mais ça, malheureusement, les détectoristes ne veulent pas l'entendre.
Au total, 2 millions d'objets seraient volés chaque année.
Avec ces détecteurs de métaux qui sont en vente libre, hein, Anne Leurf.
Oui, ouais. Les détecteurs de métaux sont en vente libre en France. Leur utilisation à des fins de recherche archéologique, en revanche, est illégale.
Ouais.
Donc c'est toute l'ambiguïté entre la vente libre et finalement un usage détourné. Alors, quand on entend ce reportage, il y a un caractère d'innocence affichée hein, d'une détectoriste, et c'est ce que dit le collègue. En fait, le problème, c'est que le détectoriste même, l'innocent promeneur du dimanche, par rapport à des faits plus graves, il fait de la détection à des usages commerciaux, mais même quand il veut être finalement d'une aide, faire une sorte de bénévolat pour les archéologues, en fait, comme il n'est pas professionnel et qu'il ne sait pas faire des fouilles archéologiques, il détruit le contexte dans lequel les vestiges sont enfouis. Et ça, c'est effectivement un vrai préjudice pour
justement,
la connaissance.
Justement, à ce sujet, on a un message de Ludovic qui nous écrit « Pratiquant moi-même l'archéologie bénévolement depuis 20 ans, rappelons que cette science fonctionne aussi beaucoup grâce aux bénévoles sur les chantiers de fouilles et aux associations locales. Vos auditeurs peuvent donc participer s'ils le souhaitent. » Alors, préciser par rapport au message de Ludovic, ce qu'il en est en fait, vraiment.
Il existe évidemment des possibilités, effectivement, de pratiquer l'archéologie de manière bénévole, mais encadrée par des professionnels de l'archéologie qui, eux, ont l'autorisation de fouiller, puisqu'en France, on n'a pas le droit de fouiller un site archéologique si l'on n'a pas une autorisation. Et c'est comme ça depuis 1941. Et la législation est très claire sur ce point. Maintenant, effectivement, dans le cadre d'opérations, ou dans le cadre de la formation des étudiants, par exemple, les étudiants sont effectivement des fouilleurs bénévoles dans la majorité des cas, ou des adultes, mais tout ça dans des pratiques très très encadrées et par un professionnel.
Carole nous envoie un message et dit « Je suis docteur en archéologie et je suis au chômage. Quel est l'intérêt, dit-elle, de faire 8 ans d'études pour faire un BTP, fouille et être payé une misère ?» C'est la réalité aussi, ça, des archéologues aujourd'hui ?
Oui, ça fait aussi partie de la réalité. Effectivement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de garantie d'un emploi au bout d'une formation en archéologie. Il y a une volonté d'essayer d'intégrer le mieux possible les étudiants, de les conduire vers des formations qui ont le plus de perspectives dans le futur. Il y a des filières ou des spécialités qui sont plus ou moins, entre guillemets, bouchées par rapport à d'autres. Donc c'est la mission des enseignants. Après, il n'y a pas de garantie. Et c'est vrai qu'on voit des étudiants qui ne trouvent pas de travail. Malheureusement, ce n'est pas réservé à l'archéologie.
On a justement un message de Charlie qui nous écrit un petit clin d'œil parce que je vous écoute en fouillant en ce moment même. J'espère que vous parlerez justement aussi de la précarité des archéologues, notamment du préventif qui ternit un peu le rêve de gosse, nous dit-il.
Oui, c'est vrai que tout n'est pas de l'ordre du rêve et tout n'est pas facile. Il y a des situations qui sont compliquées. En même temps, par rapport à d'autres pays, la France est moins mal lotie que d'autres. On a une législation qui est assez solide. On a une archéologie préventive qui existe réellement. On a environ 4000 archéologues qui sont des professionnels et qui pratiquent au quotidien. Ça ne veut pas dire que tout est rose, loin de là.
Les salaires non plus.
C'est vrai que il y a une réalité de salaire qui n'est pas... c'est pas un métier... il y a Calvin et Hobbes, il y a une bande dessinée. Et c'est vrai que moi je me souviens, dans cette bande dessinée que je cite, à un moment donné, le rêve de gosse se finit par « et demain, beaucoup d'argent, une grosse voiture ». Non, c'est pas un métier pour ça.
Allez Anne Loer, vous êtes notre invitée, dictionnaire amoureux de l'archéologie chez Plon.
France Inter. La Terre au carré.
Et à vous, Camille Cronier.
Et je vous annonce que la Startup Nation est aussi dans les champs désormais, et oui.
Bonjour, bienvenue chez Hectare. Je suis propriétaire en association avec Xavier Niel. Donc là, autour de vous, vous pouvez voir des anciens corps de ferme qui étaient abandonnés depuis les années 80 et où on a décidé de créer un écosystème, puisqu'il y aura à la fois un lieu de formation, une grande ferme en transition et des espaces de coworking et de séminaires.
C'est Audrey Bourolo qui parle, ancienne conseillère à l'Élysée d'Emmanuel Macron, présentée aussi partout comme ancienne du lobby du vin, et qui a donc acheté pour la modique somme de 18,5 millions d'euros, 51% elle et son mari, 49% pour le milliardaire et patron de Free Xavier Niel, acheté donc un gigantesque domaine dans les Yvelines, en pleine vallée de Chevreuse, le domaine de la Boissière, présenté aujourd'hui comme, je cite, le plus grand campus agricole du monde. Il vient d'ouvrir début septembre.
membres. Et pour compléter l'équipe, il y a Francis Nappé, fondateur, cofondateur de Blablacar, qui a déménagé de Paris pour devenir directeur général de ce campus baptisé Hectare.
C'est une ferme polyculture-élevage. Donc en fait, on a des grandes cultures, de l'élevage et du maraîchage. Aujourd'hui, Hectare, c'est une ferme qui fait à peu près 600 hectares. Il y a 250 hectares de forêt. Et puis on laisse aussi...
Plein d'avions qui passent au-dessus. Là.
Il est bien gratiné celui-là. Hein. Ouais, il est bien désagréable.
Alors, il y a un aérodrome pas loin, hein, mais on entend aussi le cui-cui des oiseaux ou le meu des vaches, je vous rassure.
Ah ben les voilà quand même. Voilà,
un troupeau de 60 normandes, sans cloche, mais bien équipés.
Vous voyez qu'elles ont des colliers qui sont des accéléromètres qui permettent de détecter leur mouvement en trois dimensions.
Ah oui,
et qui nous remonte de la donnée.
Alors, ce que m'explique Julie Renoux, vétérinaire consultante à Hectare, c'est déjà utilisé par certains éleveurs. Hein, ces colliers qui remontent des données sur la température des vaches, sur un petit peu ses mouvements, etc. La tech, donc, au service de l'agriculture. L'un des credos à Hectare. D'ailleurs, on croise même des codeurs comme Mathieu Ougali de l'école 42 de Xavier Niel.
Bah, je fais un nouveau programme. C'est l'intelligence artificielle axée sur l'agriculture.
On sort la tête de l'écran. On est auprès de la nature, ça change énormément.
Un mélange des genres étonnant, mais assumé comme une sorte d'échange de bons procédés. Ils travaillent sur des logiciels pour aider les agriculteurs dans leur quotidien. Enfin, agriculteurs, plutôt des chefs d'entreprise agricole. Écoutez Audrey Bourleau, la propriétaire.
Je voulais m'engager dans ce projet-là pour former la prochaine génération de chefs d'entreprise agricole. C'est un mot qui me tient à cœur. Et puis apporter des solutions en montrant qu'on peut réconcilier la tech, l'environnement et le social. Moi, ce qui m'importe, c'est d'avoir des entrepreneurs agricoles heureux, bien dans leurs baskets ou dans leurs bottes, et qui puissent redonner de l'emploi local dans les territoires.
Une vision qui ne plaît pas à tout le monde. Une centaine de personnes avaient manifesté en juin dernier à l'appel de syndicats agricoles, je le précise, pour dénoncer la vision libérale de la formation professionnelle, avec abandon de l'État, et du une agriculture toujours plus productiviste. Une sorte de défense d'un modèle à l'ancienne où le privé n'a pas de place et très loin surtout de la fameuse Startup Nation. Mais Hectare se défend.
Moi, je suis convaincue que chacun peut agir avec ses moyens, sa manière. Xavier Niel, il a créé de l'emploi par l'école 42, il a fait des choses pour la station F. Il est ici pour cette philanthropie utile et on sait pourquoi on fait ce projet-là. Et entreprendre, c'est ça, c'est aussi accepter les critiques. Moi, je les accepte, mais je sais pourquoi je fais ce projet et je le mènerai avec beaucoup de détermination et d'enthousiasme.
Vu l'enjeu, hein, le remplacement de la moitié des agriculteurs qui vont partir à la retraite dans les 10 ans, tous les moyens sont bons, estime le directeur Francis Nappé.
Il faut qu'on soit plein d'acteurs de plein de milieux différents à proposer des solutions pour que ça soit intéressant et que ça soit justement la fin d'un entre-soi ou en tout cas une nouvelle page qu'on essaye d'écrire pour adresser les enjeux de l'agriculture.
Et rendre également le métier plus attractif avec des outils pensés pour que l'exploitation, quelle que soit sa taille, soit viable, bien sûr, avec une charge de travail moins lourde, moins de pénibilité et bonne aussi pour l'environnement. Ici, on prône l'ABC, l'agriculture bio de conservation. Le fondateur de Blablacar avoue qu'il n'y connaissait rien. Et moi, j'avoue qu'il a encore quelques progrès à faire sur les champs partout dans le domaine.
Là, à droite, il y a quoi, par exemple ?
J'ai pas tous les trucs en tête. Il y a une équipe agri, vraiment, qui s'occupe de ça. Agri.
Bon, mais distinguer le quinoa de l'épeautre, du sarrasin, du chanvre ou du chia. Il y a des champs de tout ça là-bas. C'est pas son rôle, en fait. Francis Nappé est là pour créer un nouveau modèle.
Je veux mettre mon énergie et toute mon intelligence au service de la transition écologique. Là, c'est sur l'agriculture. Avant, c'était sur le transport. De toute manière, on gère les mêmes fondamentaux, l'économie, le social et l'environnemental. Ce sont les mêmes ingrédients qu'on utilisait chez Blablacar et c'est exactement ce qu'on met sur la table chez Hectare.
Réussite incontestable de Blablacar aujourd'hui, mais est-ce qu'elle sera la même au chapitre agriculture? On demande à voir. Objectif de ces formations qui ne comprennent aucun enseignement technique au passage, mais des stages éventuels dans des fermes amies. 2000 apprenants, on dit apprenants chez Hectare, 2000 apprenants par an, aussi bien des jeunes pour créer des vocations que des agriculteurs en transition ou des gens en reconversion, dans les 50 qui ont déjà commencé, il y a par exemple des militaires ou des kiné, le tout entre 5 semaines et 1 an, et gratuitement puisque le mécénat finance. Donc on a atteint de voir aussi quand même la part et le rôle des géants de l'agro-industrie dans ce projet prometteur peut-être, mais qui en tout cas ne laisse pas indifférent.
Camille Passauvert, que vous pouvez réécouter sur la page de la Terre au Carré dans un instant, la suite de notre dossier sur l'archéologie.
La Terre au Carré, la rediff. Been posing with red skies, retweeting picket signs. Put my name on petitions, but I won't change my mind. I'm keeping up appearances, the dark side.
Terre au carré, le magazine Science et Environnement. Mathieu Vidard sur France Inter.
Bonjour à tous, Elisa de la Meuse, où l'on a découvert une exceptionnelle enceinte néolithique de 35 hectares de plus de 5000 ans à la place du futur centre d'enfouissement de déchets nucléaires CIGEO à Bure. La demande des archéologues de fouiller le site dans son intégralité a été refusée par la sous-direction de l'archéologie. Les bulldozers auront-ils raison de ce site rare et pratiquement inconnu des archéologues? Merci.
Ah ben là, vous allez être les alliés des écologistes. Alors, si effectivement vous trouvez un super site sur Bure, dans la Meuse.
Oui, alors.
À l'ERF.
Oui, c'est-à-dire qu'enfin, on trouve.
Ça pourrait arrêter ça, toute prospection, ou pas?
Alors, en général, ça n'arrête pas. C'est-à-dire que c'est à partir du moment, enfin, il y a toute une procédure. C'est-à-dire que quand on entame des travaux d'aménagement du territoire, on va faire des diagnostics pour savoir si effectivement il y a des vestiges archéologiques ou pas. Les diagnostics peuvent être négatifs, c'est-à-dire il n'y a rien, ou ils peuvent être positifs. Dans le cas présent, ils sont positifs puisqu'on a effectivement une enceinte néolithique. Et donc ensuite, il y a une décision pour savoir si effectivement on fait suivre par une fouille archéologique ou pas, et de quelle ampleur est cette fouille.
Qui prend cette décision?
Eh bien, c'est le ministère de la Culture.
De la Culture,
oui,
d'accord.
Absolument. Donc c'est une décision, et c'est une décision dans un circuit complexe avec des signatures des uns et des autres, y compris des préfets.
Et qui gagne en général à la fin, alors?
Je ne crois pas qu'il y ait de gagnant ou de perdant. Je pense que ce n'est pas une opposition, ce n'est pas une guerre entre des aménageurs, l'administration, le ministère, les préfets.
Là, en l'occurrence, si par exemple la décision est prise de stopper le projet CIGEO à Bure d'enfouissement de déchets parce qu'il y a ce site néolithique, les gens qui sont contre ce projet, je vais vous dire qu'ils vont se dire qu'ils ont gagné. Hein.
Oui, j'ai un doute sur le fait qu'effectivement une enceinte néolithique arrête des projets d'aménagement contemporain. Ouais. Mais il faut vraiment des vestiges d'une ampleur exceptionnelle pour que effectivement tout s'arrête. Et un classement à ce moment-là du site, ce qui est possible, hein, ce qui permet effectivement de préserver la donnée pour demain, après-demain et le futur, et qu'on essaie à ce moment-là de faire les aménagements dans un endroit différent, ouais, de celui qui avait été initialement prévu.
Mais vous dites justement que l'archéologie est parfois mal comprise parce que justement, elle est accusée de ralentir, d'empêcher certains projets de chantier.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que ça fait rêver les enfants, mais ça fait pas rêver tous les aménageurs.
J'imagine.
Parce que effectivement, à partir du moment où il y a ce processus qui se met en route avec le diagnostic, la fouille possible, et que les archéologues pour le coup interviennent sur le terrain, on n'est pas dans ce cas de figure évoqué à l'instant. Il faut que les archéologues aient le temps de pouvoir effectivement procéder à une fouille archéologique en bonne et due forme. Donc ça n'empêche pas la construction du parking ou de la ZAC, mais ça va ralentir effectivement le chantier. Donc ça peut être mal vu.
Une question de Marion sur Instagram qui voudrait savoir si les archéologues travaillent partout sur la Terre, y compris au pôle.
Alors, les archéologues travaillent partout sur la Terre, oui. Au pôle, peu. Il faut effectivement, alors dans des zones où il y a de la glace, oui, en Amérique du Nord, en fait les archéologues travaillent là où l'homme s'est installé, là où il a vécu, là où il laisse des vestiges. Après, il n'y a pas un endroit a priori qui lui échappe, mais il n'y a pas un endroit prédéterminé où il est censé intervenir.
Eh bien, puisqu'on part à l'étranger, allons à Angkor, justement au Cambodge, où archéologie et tourisme de masse sont souvent conjugués, malheureusement.
C'est un territoire grand comme 4 fois Paris. 400 km², le site archéologique le plus vaste de la planète. Au cœur de cette forêt tropicale, des temples construits entre le 9e et le 15e siècle. Classés au patrimoine mondial de l'UNESCO il y a 25 ans, les joyaux d'Angkor attirent de plus en plus de monde. 5 600 000 visiteurs l'an dernier. Un record pour ce site exceptionnel. Tous les jours, des centaines de bus déposent des milliers de touristes, même en basse saison. Angkor enregistre cette année une hausse de fréquentation, grâce notamment à son temple star, Angkor Wat, le plus grand monument religieux du monde. Ici, le tourisme de masse s'est déjà fait sentir. Il a fallu construire des escaliers en bois pour monter au sommet du temple. Les anciens passages en pierre n'ont pas résisté au flot des touristes. Dire qu'il y a 10 ans, il n'était qu'un million et qu'il devrait être 10 millions en 2025.
Voilà, attention, c'est en 2018, hein, donc avant le confinement, évidemment, reportage sur TF1. Est-ce que, question simple, il faudrait purement et simplement interdire le tourisme à Angkor, comme on l'a interdit à Lascaux, par exemple?
Alors, c'est évidemment, à Angkor, étant donné les dimensions du site, c'est beaucoup plus compliqué.
Ouais.
Et puis, on n'est pas dans un pays où les dispositions de protection sont identiques à ce que l'on a en France. Donc, c'est évidemment compliqué, d'autant que le tourisme sur ces sites est une difficulté dans le sens où évidemment, ça met en péril le site, mais ça permet aussi au pays de nourrir son économie. Donc, il faut arriver à trouver. Et enfin, de ce point de vue-là, personne n'a donné de leçon à un pays ou à un autre et à prendre position dans ce sens. Donc, il faut arriver à trouver un compromis, une possibilité, un équilibre entre effectivement ouvrir à la connaissance et partager un patrimoine qui appartient à tout le monde. Et essayer en même temps de le préserver. Ce qui est évidemment un exercice extrêmement compliqué.
Camille essaie de lire tous les messages qui arrivent. Et Dieu sait s'il y en a.
Je ne sais plus où donner de la tête. Christine nous écrit par mail. Elle nous demande ce qu'il faut faire concrètement parce que quand on est face à une trouvaille possiblement archéologique, en promenade depuis des années dans l'Oise, 50 km de Paris, nous trouvons, dit-elle, des éclats de silex, des restes de poterie. Comment connaître l'intérêt de ce que nous considérons comme des trésors? Même s'il ne brille pas, qu'est-ce qu'il faut faire si on tombe sur quelque chose? Alors, surtout pas toucher.
De préférence, il vaut mieux pas toucher. Parce que, comme je le disais tout à l'heure, il y a la question effectivement du contexte dans lequel les vestiges sont enfouis et qui était une part extrêmement importante dans la connaissance. Il faut déclarer. Alors, ça peut être une déclaration, il faut aller voir une autorité, en fait, qui peut être la mairie, qui peut être la DRAC, qui peut être tout simplement la gendarmerie, la police, un interlocuteur officiel de l'État qui prendra le relais, qui effectivement transmettra l'information aux services responsables de ces questions, qui viendront faire une expertise s'il y a lieu.
Trois mois plus tard, ils viendront sur le terrain, il n'y aura plus le truc.
Alors, si trois mois plus tard, il peut ne plus y avoir le truc, ça dépend. C'est pour ça qu'il faut faire des photos, il faut expliquer, il y a effectivement tout ce volet-là. À qui ça appartient ? La question est plurielle, dans le sens où aujourd'hui, le sol appartient à des individus, mais le sous-sol appartient à l'État.
Oui, vous dites qu'on n'a pas le droit de creuser dans son propre jardin.
On n'a pas le droit de creuser dans son propre jardin sans autorisation. Si on a une autorisation, on a le droit de creuser. Mais si on n'a pas d'autorisation, on n'a pas le droit.
Ah bon ?
Non.
Ouais.
Je
savais pas ça.
Moi non plus, je savais pas.
Depuis 1941. Ouais. Ce qui effectivement surprend beaucoup. Mais c'est ainsi. Alors, si l'on trouve quelque chose, si l'on est propriétaire du terrain, il y a un certain nombre de dispositions, c'est-à-dire qu'il y a des situations variées, plurielles, selon les cas très précis. Depuis 2016 et la nouvelle législation, si le terrain a été vendu et qu'on en est le nouveau propriétaire après la nouvelle législation, tout ce qui est trouvé appartient désormais à l'État, dans le nouveau dispositif. Considérant que ces vestiges archéologiques appartiennent à tous, à l'humanité, et non pas aux propriétaires d'un terrain de manière individuelle.
Bon, donc si le chien gratte dans le jardin et qu'il découvre un trésor, manque de bol, mais ça n'appartient pas à la famille. Camille, d'autres questions?
Marilyn nous écrit qu'elle elle a quitté l'archéologie, elle était archéologue, Marilyn, par conviction écologique, utilisation de pelles mécaniques très gourmandes en gasoil, destruction d'espaces naturels en vue d'aménagement. Est-ce que vous comprenez, Mathieu disait tout à l'heure que dans votre livre, il n'y a pas d'entrée sur l'environnement. Pourquoi? Et est-ce que vous avez quand même des préoccupations environnementales et notamment celle de Marilyn?
Et je vous ai vu lever les yeux au ciel, Anne Leurf. Je vous dénonce.
Dénoncez-moi. Alors, c'est pas vrai qu'on n'a pas de préoccupations sur l'environnement. C'est pas parce qu'il n'y a pas une entrée environnement ou une entrée écologie que ces préoccupations ne font pas partie des préoccupations des archéologues. Comme je le mentionnais, on a effectivement des thématiques sur tout ce qui concerne le domaine de l'environnement, retrouver les paysages du passé, voir comment l'homme est intervenu, étudier les bois, étudier les pollens, étudier les ossements. Il y a un certain nombre de sujets. Pour ce qui est de ce cas précis et finalement de l'utilisation des pelles mécaniques, c'est vrai, quand on a des centaines d'hectares à fouiller, au pinceau, c'est un peu lent. Donc, tout à l'heure, on évoquait les aménageurs qui trouvent que ça va trop lentement. Et si on passe de la pelle mécanique pour faire un certain nombre de diagnostics sur des centaines d'hectares à simplement la truelle, ça va prendre encore plus de temps. Donc, il y a effectivement l'utilisation d'un certain nombre de moyens et d'engins comme on le fait sur finalement les aménagements et les chantiers. Et ça fait partie aussi de la panoplie des archéologues.
Allez, on écoute Manu Chao et une dernière salve de messages pour vous, Anne Lerf, archéologue et invitée de la Terre au Carré aujourd'hui.
J'aimerais mourir tellement j'ai voulu croire. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien avoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te voir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Parfois j'aimerais mourir tellement y a plus d'espoir. Parfois j'aimerais mourir pour plus jamais te revoir. Parfois j'aimerais mourir pour ne plus rien savoir. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus, mon amour. Je ne t'aime plus tous les jours. Je ne t'aime plus.
Manu Chao.
France Inter. La Terre au carré.
Jones, nous sommes de la même étoffe tous les deux. L'archéologie est notre religion. Mais il faut l'avouer, notre foi de néophyte n'est pas restée pure. Regardez. Cette montre ne vaut rien. $10 à la sauvette au coin de la rue. Mais attention, je la prends, je l'enterre dans le sable et dans 1000 ans, elle n'aura pas de prix et vaudra tous les trésors. Comme l'arche. Des hommes se tueront pour l'avoir. Des hommes qui auraient pu être vous ou moi.
Voilà, Anne Lerf. Une petite allusion encore à Indiana Jones.
Absolument. Hein.
Donc on jette une montre et puis dans 1000 ans, effectivement, on va se battre et ça aura beaucoup de valeur. C'est ça votre métier? C'est bien résumé.
Les masques chirurgicaux, s'ils ne sont pas...
Le plastique va bien se conserver.
Oui. Camille, on pourrait faire une émission entière sur les détectoristes.
Ah oui, là, je croule sous les messages. Alors, je vais vous faire une petite synthèse. Hein. On a Larry sur Twitter, Clémentine, Julien qui nous écrit « Les détectoristes, par exemple, en Angleterre, sont une aide pour les archéologues. Dommage qu'en France, ça ne fonctionne pas comme ça. Si l'on pouvait travailler avec, je pense que plus de sites seront découverts grâce aux détectoristes. » Xavier, lui, nous écrit « Comment expliquez-vous que d'autres pays européens acceptent les détectoristes et que leurs découvertes découlent sur de vrais échanges? Ils ne sont pas traités de voleurs dans toute passion, dans toutes les professions, il y a des tricheurs, des malhonnêtes, mais ça ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt. Et enfin, Edouard, et je vous laisse répondre, je pratique la détection des métaux comme loisir, les archéologues nous détestent, ne pourrait-on pas trouver un terrain d'entente alors, Anne Lerf?
Ça va être difficile de trouver un terrain d'entente quand on est du côté des scientifiques. Parce que justement, la détection, qu'elle soit de loisir, qu'il y ait des gens de bonne foi et effectivement qui ne veuillent pas, par le détecteur, détruire, plus par ignorance finalement que par volonté de nuire, je peux tout à fait l'entendre et je peux tout à fait le comprendre. Il se trouve que la réalité, dans les faits, c'est que le détectoriste détruit. Et il détruit, j'ai l'impression de radoter depuis tout à l'heure, mais le contexte dans lequel les vestiges sont enfouis. Or, ça fait partie de l'information, ça fait même partie de la définition de l'archéologie dans le Code du patrimoine.
Oui, mais s'il travaille en collaboration avec des archéologues, justement, il ne détruit pas, il permet de détecter.
Mais
oui,
non, parce qu'en
découvrir.
Fait, pour être sûr de détecter, il est obligé de creuser. Et en creusant, il détruit le contexte.
Mais
qu'il
pas
va...
forcément, non.
Mais si, parce qu'en fait, il va faire sonner son détecteur de métaux, et en faisant sonner, il va vouloir voir ce que c'est, savoir si c'est une canette de coca ou si c'est effectivement autre chose, parce que ça sonne pour tout. Donc, ça pose un certain nombre de questions. Et donc, il va avoir la curiosité d'aller voir.
Et pourquoi en Angleterre? Alors, il y en a qui nous disent, par exemple, qu'en Angleterre, c'est accepté.
Tout à fait. La législation anglaise, et les Anglais, y compris les archéologues, enfin, les collègues britanniques, réfléchissent là-dessus. Et c'est aujourd'hui un débat qui est porté, y compris auprès des politiques. Je pense l'un des premiers à avoir vraiment mis en avant ça, c'est Colin Renfrew, Sir Lord Colin Renfrew, qui est un grand archéologue britannique. Et en fait, ça pose un certain nombre de questions, parce qu'aujourd'hui, on se rend compte qu'effectivement, il y a une législation autour du Treasure Act en Angleterre qui effectivement a incité la détection sur le terrain. Et sauf qu'aujourd'hui, on commence à voir que la donnée s'épuise en Angleterre sur un certain nombre de vestiges. Donc la question de cette petite fille de tout à l'heure revient d'actualité. C'est-à-dire qu'on trouve des objets comme on le trouvait au 19e siècle, sauf qu'au 21e siècle, ce n'est pas intéressant de sortir les objets de terre s'ils ne sont pas en contexte.
Eh bien, si on a des amis détectoristes qui veulent réagir, vous pouvez appeler le répondeur de la Terre au carré. On entendra votre voix pour nous donner également ce que vous pensez de cette question. 01 56 40 45 45, notez bien, et on attend vos appels. Dernière question, très vite, Camille.
En 15 secondes, Anne Loerf, Karine nous demande s'il est vrai que le milieu de l'archéologie est un milieu machiste.
C'est un milieu machiste qui essaie de faire des efforts et tente de s'améliorer. Il y a encore des progrès à faire.
Il y a une entrée femme, hein, d'ailleurs, dans votre dictionnaire.
Il y a une entrée femme.
Mais il y a aussi une entrée Raon dans la série des mâles alpha.
Oui,
et des gros machos blancs. Et ben Raon y est aussi, voilà. Donc c'est très éclectique. C'est votre dictionnaire amoureux de l'archéologie. Et ça paraît aux éditions Plomb. Vous en êtes l'autrice, Anne Loerf. Merci beaucoup d'être venue nous en parler dans la Terre au carré. C'était très bien.
Merci à vous.
À bientôt. Demain, avec Guy Vanctil, une heure de grand reportage. Ce sera la Terre au carré grand format aux Maldives, dans l'océan Indien, où cette fois, c'est le tourisme qui finit de détruire cet autre paradis menacé.